Chapitre 2. Notre-Dame à revers. À des étrangers ou à des amis de passage, le village de Dames pouvait bien sembler un petit monde hors du monde, artificiel et falot, comme ces peintures japonaises où l'on voit, dans un paysage de convention, de petites femmes bien coiffées sourire vaguement et glisser, en cachant leurs mains oisives, parmi un décor d'étonnantes fleurs. Pas de mari, pas d'enfants, de petites existences modestement logées et grignotant une amande comme les écureuils en hiver, un effroi des rudes contacts et des responsabilités, la recherche minutieuse des apparences, tels étaient les vœux et le bréviaire de ce béguinage protestant. Ces nonnes d'un couvent ouvert avaient toutes, en effet, voulu fuir le monde, mais elles le retrouvaient au milieu d'elles, dans les amitiés et les jalousies. Et l'apparence soigneusement peinte et pomponnée masquait souvent la dure loi de travailler et de souffrir cachée derrière. On ne savait pas tout. Plusieurs de ces dames avaient leurs soucis, épreuves de sentiments qui prenaient volontiers une teinte religieuse et dont on pouvait s'entretenir dans la réunion d'intérêt général, inquiétudes matérielles, plaies d'argent sur lesquelles on se taisait. Une convention tacitement établie et qui n'était pas sans noblesse étendait le mystère sur tous les côtés sordides de l'existence afin que chaque voisine pût croire que sa voisine vivait comme les anges ou tout au moins comme les lys des champs qui ne filent ni ne moissonnent. Il était connu, par exemple, que Madame Lénier-Nicole ne mangeait de viande que très rarement. Mais sa propriétaire, Mademoiselle Alice Métral, qui lui envoyait de petites offrandes élégantes de bouillon de poulet ou de crème à la vanille, n'aurait jamais risqué l'aumône d'un morceau de bœuf à bouillir. Madame Lénier-Nicole, qu'on me permette ici une parenthèse explicative. Ces dames, par quelques raisons cérémonielles et occultes, tenaient beaucoup à faire graver sur leur carte de visite un vocable double composé du nom de leur mari et de leur propre nom de famille, comme pour accumuler sur une seule tête les ancêtres de deux lignées, la gloire et le lustre de deux familles. Madame Lénier-Nicole avait eu des revers. Son mari, un industriel aventureux, l'avait ruiné, mais il s'était ensuite reconquis l'affection et l'admiration de sa femme par une longue maladie. Car la souffrance est, bien illogiquement, un mérite aux yeux du sexe pitoyable. Restée seule, dans le crêpe et les larmes, exténuée par ses fatigues de garde-malade, la veuve fit le compte de ses ressources et les trouva réduites à une petite rente inaliénable de 600 francs, legs d'une tante prévoyante. Pour payer jusqu'au dernier centime les dettes que son mari lui avait laissées en souvenir, elle vendit son ménage, son linge, son argenterie. Elle ne garda que des épaves et elle arriva un soir, humblement, avec un pauvre char à bagages, à la porte de Mademoiselle Alexandrine Jacquet, qui lui sous-louait deux chambres de sa petite maison au rez-de-chaussée. Dès l'aube du lendemain, Madame Lénier-Nicole s'installait, avec une activité lente, si l'on peut employer deux mots aussi contradictoires, avec des pas trottemenus et des mouvements languissants, mais qui ne s'arrêtaient point. Une sorte d'énergie fatiguée que l'on trouva touchante et un sens du décorum qui ne rencontra pas moins d'approbation. De la première pièce, elle fit un petit salon fort convenable d'où toutes les besognes inélégantes étaient exclues. Une petite chapelle du bon ton pour causer sur une causeuse, broder, sourire, avoir l'air riche et contente. Mais comme il faut bien tous les jours cuire une poignée de légumes, laver une tasse et une assiette, elle mit dans sa chambre à coucher, derrière un rideau de perse, son petit fourneau à gaz de benzine, le baquet, le seau et le flacon de glycérine parfumée pour se refaire, après l'eau grasse, des mains de dame. L'hygiène n'eût peut-être pas trouvé son compte, peut-être, à un voisinage aussi intime des arcanes du sommeil et de la cuisine. Mais Madame Lénier-Nicole plaçait le devoir de ne point déroger, bien au-dessus des futiles préoccupations sanitaires. Elle voulait vivre à la hauteur de son passé et en maintenir au moins une faible image. Personne ne vit jamais ni le baquet, ni le seau, ni les allées et venues de la maison à la fontaine, ni le linge tordu au bord du bassin. La nuit, cachée de ses ombres, ou l'aurore éclairait de son rayon le plus matinal les dessous du modeste ménage. À 9 heures du matin, la veuve, coiffée de son petit bonnet anglais à liséré de crêpe blanc, les mains douces et parfumées, un grand tablier d'alpaga noir cachant sa robe, semblait n'avoir plus à faire que des bouquets. Du premier jour, elle en mit partout. Elle arrangeait une poignée de pâquerettes, 2 ou 3 branches de lierre, une quenouillée de chatons de saule avec tant de goût que chacun se récriait et qu'on lui apporta des fleurs pour le plaisir de voir les petits poèmes qu'elle en savait composer. C'était au portrait de son mari que la veuve consacrait les plus belles guirlandes. Un grand diable de portrait banal et pommadé, un visage blanc et noir de bel homme à moustache et l'épingle de cravate représentée avec un soin particulier. « Comme je suis privée de fleurir sa tombe, je fleuris du moins son portrait », disait Madame Lénier-Nicole en présentant ce défunt mari aux visiteuses. Et elle ne manquait jamais d'ajouter « Il a été si bon pour moi !» avec un soupir absolument sincère. Sur quoi Mademoiselle Alise ne pouvait s'empêcher de hausser les épaules et de penser « Oui, il lui a galvaudé jusqu'à son dernier sou, et maintenant il se fait tresser des couronnes. Ah, ça leur ressemble bien !» Quant à Mademoiselle Alexandrine Jacquet, que rien au monde n'eût retenu de corriger une notion qu'elle jugeait fausse, elle disait « Chère madame, il est bien heureux pour vous que le bon Dieu ait retiré monsieur votre mari, car vous seriez morte à la peine de le soigner. » Alors, si une autre veuve était présente, ou seulement madame Perrault-Campillon, la femme incomprise aux beaux yeux d'Almée, qui avait eu des infortunes conjugales mystérieuses, madame Lénier-Nicole échangeait avec cette sœur un sourire de patiente commisération pour les deux vieilles filles. « Pauvres chères âmes, elles ne sauraient comprendre, il faut leur pardonner, se disaient-elles des yeux comme deux prêtresses du même culte. » Et par ce sourire, mademoiselle Alise et son amie se sentaient exilées, loin des rites inconnus, dans les ténèbres du dehors. Le village de dames témoigna tout de suite beaucoup de considération à la nouvelle venue. Ses revers la rendaient intéressante. Elle recevait les visites avec gratitude et les rendait avec ponctualité. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, mais on lui croyait des idées très arrêtées sur tous les sujets. Ainsi, elle laissait infuser son thé exactement 5 minutes avant d'y verser la seconde eau, et rien ne put la détourner de cette pratique, jugée malsaine par Mademoiselle Alexandrine. Ainsi, elle refusa les livres de dévotion anglaise que ces dames se prêtaient les unes aux autres et trouvaient délicieux, où l'on décrit les demeures célestes dans leurs moindres recoins, ce qui semble un genre de littérature bien consolant pour une veuve et tout à fait approprié. Ainsi encore, elle secoua la tête aux remèdes infaillibles qu'on lui offrait de toutes parts pour ses migraines, aux pilules de caféine, aux gouttes chinoises, aux lames de couteau sur la nuque. « Le repos et l'eau sédative m'ont toujours suffi, » disait-elle. Une fois par semaine, infailliblement le samedi ou le dimanche, sa porte restait fermée à la laitière qui trouvait dans le petit corridor, sur un escabeau, le pot à lait soigneusement recouvert d'une soucoupe. Après l'avoir rempli, la bonne femme grattait un moment à la porte pour soulager sa conscience et puis s'en allait de cottage en cottage, semer la nouvelle que cette pauvre madame Lénier avait encore sa migraine, et que, bien sûr, ça la rongerait à la fin, ses migraines, et qu'elle devait se faire ausculper. Madame Bornet croyait beaucoup à l'auscultation comme remède. Aussitôt, comme si l'on eût jeté un bâton dans une fourmilière, le village de dames s'émouvait, et ces dames, sortant de chez elles en bonnet du matin, causaient par-dessus les barrières des jardinets. « Pauvre femme, quelle triste santé ! La voilà à plat de lit pour 12 heures, car, elle me le disait elle-même avant-hier, ses migraines font juste le tour du cadran. La soigner, je crois bien qu'on la soignerait si elle se laissait faire. On se relairait. Mais elle refuse, elle s'obstine, sa porte est fermée à double tour. Demandez plutôt à mademoiselle Alexandrine Jacquet, qu'il écoutait gémir la dernière fois et qui, n'en pouvant plus, a essayé de forcer la serrure. Mais vous l'avez entendu comme moi en parler mardi soir dans notre réunion d'intérêt général et adresser de vives reproches à Madame Lénier. Elle répond à tout « Merci, vous êtes trop bonne. Pour moi, j'en suis bourrelée, je vous assure. » Eh, madame, à qui le dites-vous? J'ai là des gouttes parfaites que mon neveu m'a envoyées de Shanghai. On les laisse couler sur le front, et puis on souffle dessus pendant 10 minutes, et cela produit un soulagement extraordinaire. Mais il est indispensable qu'on souffle dessus, et comment voulez-vous que madame Lénier se souffle elle-même sur le front? Ah, elle devrait bien nous accorder ce plaisir. Car ces dames, qui se portaient presque toutes fort bien, grâce au bon air et à la vie paisible, aimaient passionnément qu'on fût malade, et les fréquentes indispositions de Mademoiselle Bellange, l'invalide de la communauté, étaient loin de suffire à leur ardeur de dévouement. Se jugeant frustrée, à la fois d'un droit et d'un devoir, elle s'en plaignait chaque mardi à la récalcitrante qu'on voyait arriver, pâle encore, les yeux battus, les gestes languissants, à la réunion d'intérêt général. « Vous sortez encore d'une migraine? Ne le niez pas, cela se voit. Samedi, comme toujours ?»« Non, dimanche cette fois, » répondait la veuve en ôtant sa petite capote et son voile de crêpe, trop lourd à sa pauvre tête endolorie. « Samedi, je n'avais que les avant-coureurs. »« Bon, si ça vous tient 2 jours à présent ?»« Non, 12 heures seulement de vraies migraines, là, carabinée. »« Que voulez-vous? Depuis des années, j'en fais mon compte. »« C'était une grande épreuve pour mon pauvre mari. »« Si je m'attendais à cela, » exclamait Mademoiselle Alise, presque à haute voix en regardant ces dames. Il lui faisait croire. « Ah, ça leur ressemble bien !» Ce mardi, la réunion d'intérêt général avait lieu chez Madame Perrault-Campillon, dont le salon était couleur d'élégie, tout en velours, pensé et bois noir, et il y avait au-dessus du piano une gravure pointillée qui représentait une grande femme voilée près d'une tombe. Cela s'appelait « Deuil d'amour ». Chez Madame Perrault-Campillon, une influence subtile faisait tourner la réunion d'intérêt général au sentiment et à la mélancolie. Comme la dame qui recevait chez elle le meeting ne le présidait point, absorbée par ses fonctions d'hôtesse, ce fut Mademoiselle Alise Métral qui parla la première, derrière la petite table couverte d'un tapis fait de morceaux de soie blanc et lilas. Mademoiselle Alise entra dans la lice d'un élan et s'échauffa tout de suite, déclara qu'aucun sujet d'intérêt général ne l'emportait sur les migraines hebdomadaires de Madame Lénier-Nicole, dont toutes ces dames étaient douloureusement préoccupées. Un murmure d'assentiment fit le tour du cercle. En présence d'un mal physique qu'elle ne pouvait secourir, la vieille demoiselle, fille d'un père guérisseur, se sentait comme un terre-neuve qu'on empêche de sauter à l'eau. Elle énuméra tous les remèdes usagés contre la migraine. Elle en avait écrit la liste sur une petite carte qu'elle tenait dans le creux de sa main. Elle remonta même jusqu'à l'Antiquité et affirma que les dames romaines appréciaient fort dans ses indispositions le vinaigre de romarin. L'huile de cyprès est mentionnée aussi par les auteurs. Seulement, on en a perdu la formule. « Assez de moyens nous restent, » poursuivit-elle, repoussant de la main ses boucles grises, dont l'agitation de son éloquence en mêlait les spirales. « Si nous ne réussissons pas à vous guérir, nous vous soulagerons du moins. » C'est au nom de ma conscience. De nos consciences, interrompit Mademoiselle Alexandrine d'un ton sévère. Oui, oui, de nos consciences, appuyèrent toutes ces dames chaleureusement. C'est au nom de nos consciences que je vous supplie de ne plus mettre obstacle à l'accomplissement de notre devoir envers vous. Laissez votre porte ouverte, faites quérir l'une de nous, qui considérera comme un vrai privilège d'accourir et de vous soigner. Le sentiment intime de ces dames fut que Mademoiselle Alise se désignait elle-même par trop clairement au choix de la personne en cause. Elles s'en épanchèrent le lendemain les unes aux autres dans des cercles plus intimes. « Si ce n'est, dirent-elles, que nous eussions craint de mettre cette pauvre Madame Lénier-Nicole mal à son aise, en ayant l'air de nous l'arracher et de nous disputer ses membres, nous aurions réclamé pour elle le droit de choisir. » Cependant, cette pauvre Madame Lénier paraissait bien assez mal à l'aise comme cela. Elle rougissait et pâlissait, baissant les yeux, et l'on vit trembler les coins de ses lèvres. Quand elle fut un peu remise, elle remercia Mademoiselle Métral de ses bonnes intentions, puis elle s'arrêta, et ses petites mains maigres, agitées, chiffonnèrent un pli de sa robe de cachemire noire. On attendait dans le plus grand silence. « Je suis, reprit Madame Lénier avec effort, je suis, on ne peut plus toucher, mais je préfère, oui, décidément, je préfère ne déranger personne. » Un mot désapprobateur parcourut l'assistance. On hocha la tête, comme on le fait en face d'un enfant pervers sur lequel on n'a pas d'autorité. Avec ostentation, et pour bien marquer qu'on n'insisterait pas, Mademoiselle Alexandrine Jacquet se mit tout de suite à parler d'un achat collectif de graines de jardin qui était le vrai sujet à l'ordre du jour. Puis on servit le thé et la première tasse fut offerte à cette veuve obstinée pour bien lui marquer qu'on pratiquait néanmoins le pardon des offenses. Depuis ce jour, sa popularité baissa et on parlait avec une sympathie plus froide de notre pauvre dame à revers, ainsi que Mademoiselle Alice l'avait, au début, affectueusement dénommée. Le nombre des bouquets qu'on lui envoyait le matin pour qu'elle les consacrât à l'effigie de son époux défunt diminua notablement. On en vint à la citer comme un triste cas d'endurcissement. On ne lui parla plus de ses migraines. C'est à peine si, d'un ton vague et général, on lui demandait des nouvelles de sa santé. On se disait, elle l'a voulu, c'est un caprice. Mademoiselle Alice ne s'en consola point. Chaque samedi matin ou le dimanche, en passant devant les volets clos qui signifiaient migraine, elle éprouvait un petit spasme d'instinct refoulé. Elle s'en ouvrit à Clermonde, car pour le dire en passant, ma cousine avait enfin découvert le trésor tant cherché, une bonne qui la comprenait. « J'ose à peine vous confier, Clermonde, fit-elle, la pensée qui m'est venue. Si ces migraines étaient une fiction. » « Ma foi, mademoiselle, je vous avoue que j'ai eu la même idée. Il y a des gens qui s'enferment pour fabriquer de la fausse monnaie, par exemple. »« Clermonde, vous êtes absurde. »« Dame, mademoiselle, nous avons bien caché le voleur, vous et moi. » »« Le pauvre homme, dit ma cousine, que ce souvenir attendrissait infailliblement. Je voudrais bien avoir de ses nouvelles. » Mais dans le mystère dont Madame Lénier entoure sa migraine, il y a autre chose. « Vive la liberté !» dit Clermonde, qui avait une manière brève de résoudre les questions. « Oui, oui !» murmurait sa maîtresse, en allant de son pas vif et court, sur le tapis rouge du vestibule. « Vive la liberté, c'est fort bien, mais la fraternité, qu'en faisons-nous » « Ah, dira-t-on, que de remue-ménage, que d'évolution, de marches et de contre-marches autour d'une migraine. Avez-vous vu des fourmis se disputer un fétu ou des mineurs se menacer de mort pour une pépite? La grandeur de la bataille n'est point dans le brin de paille ni dans le morceau d'or, mais dans les passions qui se l'arrachent. Et le cœur d'un homme ou d'une femme est toujours plein de ces passions disponibles, jalousie, dévouement, amour, auxquels il faut un objet, grand ou petit, admirable ou risible, que ce soit une ambulance en temps de guerre ou le soin d'un vieux chat qui achève de périr au fond d'une corbeille. Dans le village de dames, pour nourrir de voraces besoins du cœur, il n'y avait que de petits intérêts, que de drames intimes pour occuper les imaginations, que les occupations aisées et monotones pour remplir les longues journées. Ces trois engloutisseurs, le cœur, l'espoir et le temps, y trouvaient petite pâture. Aussi se jetait-on sur la moindre provende, comme des mésanges affamés se battent pour un grain de chanvre. Cependant, Madame Lénier, sentant cette disgrâce, se retirait dans sa coquille. Elle ne demandait point à être comprise, souhaitant au contraire avec ferveur que nul ne pénétrât ses mobiles. Mais elle accomplissait tous les rites du cérémonial de politesse en femme convaincue de leur importance. Elle rendait dans les 8 jours les visites qu'on lui faisait. Elle offrait le thé à son tour d'une manière fort convenable, sans argenterie, il est vrai, puisque la fortune adverse lui avait ravi jusqu'à ses petites cuillées, mais avec deux sortes de biscuits et un plum cake, selon l'ordonnance qui règle que dans un thé bien servi, il y aura une pâtisserie qu'on coupe et deux qu'on ne coupe pas. Elle ne négligeait point de s'enquérir des anniversaires qu'on fêtait avec une grande précision dans le village de dames par des envois de cartes et de fleurs ou de menus cadeaux selon le degré d'intimité. En toute chose, elle s'efforçait d'être sans reproche, mais chaque semaine s'aggravait au point d'en devenir insupportable le sentiment de la défaveur, de la désapprobation unanime. Madame Lénier-Nicole sortait peu. Quand son petit ménage était mis en ordre, elle s'asseyait près de la fenêtre du salon et elle brodait. Pour un magasin, probablement, car le facteur apportait souvent de gros paquets et en remportait d'autres, contre un petit pourboire régulier de 2 sous. Si l'on surprenait la brodeuse à son travail, elle ne donnait aucune explication. On voyait autour d'elle des vagues boutonneuses de fine toile, ou bien des mouchoirs, des serviettes, dont elle laissait admirer les initiales fleuronnées, les festons, les guirlandes, et si l'on disait « c'est un trousseau », elle répondait « oui » sans autre commentaire. Elle travaillait à ravir, mais lentement, comme elle faisait toute chose. Son aiguille avait l'air de becqueter doucement la bâtisse, tandis que d'autres aiguilles semblent la mordre. Cependant, la besogne avançait à force d'heures patientes et assidues. Il arrivait des mandats de poste, pas bien gros, un mois 30 francs, un autre mois 40, qui s'en allaient moitié aux dépenses du ménage, moitié à la réserve pour les cas imprévus. Chaque samedi matin, la première pensée de Madame Lénier-Nicole était un point d'interrogation. « Ma migraine viendra-t-elle aujourd'hui ?» Languissamment, elle se levait, le front déjà alourdi par l'appréhension. « Ah, mon Dieu, ça y est, je n'ai que le temps !» Alors elle se faisait une tasse de thé très fort pour retarder un peu la grosse crise. Et puis, avec des soupirs et une ténacité lente qui lui était particulière, elle vaquait à tous ses petits préparatifs de maladie sans en négliger aucun. D'abord, elle installait dans le vestibule le pot à lait sur un escabeau, puis elle tournait la clé dans la serrure du salon sur lequel ouvrait la chambre à coucher. Elle fermait à demi les volets de ses 3 fenêtres, car déjà la lumière frappait d'un coup trop violent ses tempes et ses yeux. Elle arrangeait sur un guéridon la lampe à esprit de vin, la casserole pleine d'eau, le petit pot brun où elle laissait tomber une pincée de camomille et le flacon d'eau sédative avec un vieux mouchoir blanc plié pour les compresses, méthodiquement, dans un ordre sans variante, mais avec une peine infinie et des arrêts et de petites plaintes à demi-voix. Quand elle avait bien pensé à tout, quand ses mains moites et glacées avaient rempli d'eau chaude la bassinoire, la pauvre femme tapotait faiblement l'oreiller et puis s'étendait, anéantie, sur son lit. Elle s'abandonnait au mal sans plus de résistance. C'est à peine si, de quart d'heure en quart d'heure, elle enlevait la compresse qui pesait à son front douloureux comme une pierre chauffée. Sans ouvrir les yeux, elle cherchait sur le guéridon la soucoupe pleine d'eau sédative, mais sa main tombait parfois en route comme découragée. Des éclairs de feu traversaient sa tête d'un bout à l'autre. Ses prunelles les voyaient en dedans et la substance de son cerveau était comme déchirée par leur sillon. Et puis, l'atroce nausée montait et il fallait se dresser en sursaut, se prendre la tête à 2 mains et puis retomber sur l'oreiller, prête à rendre l'âme et n'avoir personne pour vous donner seulement une goutte d'eau pour ramasser le mouchoir tombé à terre. Oh, ce mouchoir qu'il aurait fallu ramasser, cette flamme qu'il aurait fallu allumer, cette bassinoire trop chaude qui lui brûlait les pieds et qu'il aurait fallu extraire des profondeurs du lit, que de cauchemars obsédants, que d'efforts intérieurs et de sollicitations avant qu'un doigt se fût décidé seulement à bouger. Et quelle œuvre longue et pénible qu'une série de mouvements, tout ce qu'il faut pour enflammer une allumette. Au bout de quelques heures, la période de nausée était finie et il n'y avait plus que la douleur, rongeante comme une dent d'animal, qui, du sommet de la tête, se dévorait lentement un chemin vers la nuque. À moitié hallucinée, la malade voyait à travers ses paupières un soleil rouge et cruel dont les rayons la transperçaient de flèches lancinantes. mais par degrés insensibles, ils baissaient sur l'horizon et les dards s'émoussaient, leur mal se faisait plus sourd, la chambre devenait sombre. « Ah, bon ami, bon ami !» gémissait doucement Madame Lénier. Elle songeait dans son demi-rêve à une amie qui la soignait autrefois et dont les doigts légers se promenaient sur son front. Machinalement, avant le néant final où elle se sentait tomber, elle dégrafait un peu son peignoir qui la gênait et dont elle n'avait pas osé se débarrasser. Son idée fixe était qu'un incendie ou quelque autre catastrophe surviendrait pendant une de ses migraines et qu'il ne fallait point que la nécessité de fuir la trouvât dévêtue. Oh, s'allonger librement dans son lit sans l'entrave pesante de toutes ses étoffes. De sa main, à présent presque inconsciente, elle tirait sur ses épaules le couvre-pied et la nappe. Oui, la nappe. Madame Lénier couchait entre deux nappes, bien minces et reprisées. Et c'était là toute l'explication de son triste caprice, de ses refus. Elle dort maintenant, abîmée de lassitude et d'une torture qui a duré 12 heures. Ses paupières plombées, ses lèvres sèches, n'ont plus que de faibles tressaillements. Elle va dormir ainsi jusqu'à minuit, et alors une faiblesse d'inanition la réveillera, et il faudra qu'elle se lève toute chancelante pour chauffer un peu de lait. Je puis bien maintenant vous éclaircir le mystère de cette secrète pénurie qu'elle cachait comme un crime et qu'elle révéla beaucoup plus tard à ma cousine Alice. En vendant son linge de ménage, elle s'était réservé juste le nécessaire pour le lit et pour la table, 6 nappes damassées de reprise et 6 draps parmi les moins bons. Dans la confusion des emballages et du départ, ces draps disparurent, volés peut-être, ou expédiés par erreur avec les objets vendus. Quand Madame Lénier déballa ses caisses et s'installa dans sa nouvelle demeure, elle ne trouva plus de draps, plus un seul. Avouer cette misère lui parut trop sordide et trop humiliant. Elle se dit « Avec l'argent de mes broderies, je rachèterai des draps, et ils seront de fil, je me le jure, car je suis une dame malgré tout. » Seulement, comme sa rente suffisait tout juste à la nourriture et aux vêtements, et qu'en brave femme, elle se faisait un devoir sacré d'avoir tout prêt dans un tiroir l'argent de son loyer, il lui fallut 4 mois, c'est-à-dire 16 migraines, 16 étapes de souffrance solitaire, pour arriver au but. Tandis qu'elle tirait l'aiguille dans les beaux draps fins destinés à des épaules plus heureuses, tandis qu'elle s'arrachait les yeux à compter les fils des ourlets à jour, son esprit faisait des métrages et des calculs, et ses regards s'en allaient parfois vers un catalogue de magasins de blanc, grand ouvert au comptoir des draps, sur la corbeille à ouvrage. Elle fit la dépense de 2 ou 3 cartes postales pour demander des échantillons. Elle exposa que, travaillant pour la maison, elle espérait des conditions favorables. Finalement, elle envoya sa commande. C'était un lundi. Madame Lénier calcula que sa lettre, bien fermée contre les indiscrétions possibles du petit bureau postal, arriverait à destination dans la matinée du mardi, que le paquet serait expédié immédiatement et comme elle le demandait avec instance, et qu'avant d'avoir vécu le mercredi tout entier, elle verrait de ses yeux, elle toucherait de ses mains l'objet de son long désir. Guettant près de sa fenêtre, elle fut sur le point de défaillir de joie quand elle vit le facteur arrêter sa petite charrette près de la barrière du jardinet et puis choisir avec lenteur, parmi d'autres colis, un paquet brun, volumineux, qu'il mit sur son épaule. « Toujours de gros paquets, Madame Lénier !»« C'est un remède pour ma migraine, » répondit-elle avec une exubérance heureuse qu'elle ne put réprimer. Le facteur se mit à rire, mâchonnant dans sa moustache qu'alors, ma foi, elle les prenait à forte dose. Madame Lénier défit les ficelles sans se permettre de couper un seul nœud, mais ses mains tremblaient de hâte et de plaisir, et quand elle déroula sur le canapé la belle toile lisse et blanche, fraîche comme la première neige, souple comme une vague de soie, elle oublia pour un instant tous les chagrins de sa vie. Elle se trouva riche, elle rit toute seule, par pure félicité. Toutes les mesures étaient prises. L'aiguille, le fil, le papier à marquer attendaient. Elle commença son joyeux travail par les ourlets du drap de dessous. Des ourlets à surger, un luxe de grand trousseau, chaque petit point exquis chantant une note du cantique de jubilation. Ensuite, la marque dans un coin, deux lettres modestes, mais en fin plumetis, pas du tout la marque d'un drap de bonne. Ah, Madame Lénier savait comment doivent se faire les choses. C'est à peine si elle soupa d'une tasse de lait, d'un morceau de pain grillé, sans beurre, car elle eût craint la moindre macule au bout de ses doigts qui ne lâchèrent point l'aiguille. Pour le drap de dessus, elle voulait l'ourler à jour, tout simple, mais d'une irréprochable délicatesse. Bien à contre-cœur, elle alla se coucher quand la pendule sonna minuit. Une excitation de joie l'empêcha longtemps de dormir et des combinaisons, des incertitudes pour le chiffre qu'elle souhaitait absolument distinguer. Fallait-il entrelacer L et N, Lénier Nicole, ou bien le C de son prénom, Caroline, formerait-il avec l'L un arrangement plus gracieux? Grave question, débattue mentalement depuis plusieurs jours, et qu'il fallut, de toute nécessité, trancher le lendemain. Le C, à cause de sa courbe élégante, l'emporta sur l'N, qui semble marcher sur des échasses. Jamais dans les annales de la broderie on ne vit un relief plus victorieusement moulé, des déliés plus fins, des pleins mieux gradués. Madame Lénier se sentait en pleine crise de génie, elle composait, son aiguille courait toute seule et des fleurs naissaient sous ses pas. Il était grand comme la main, ce chiffre, finalement, et il représentait le point sablé, le point russe, aussi bien que le plumetis dans leur plus belle manifestation. Nous ne dirons rien de l'ourlet à jour, sinon que, sous les guirlandes du chiffre, il ressemblait au ruisseau transparent qui borde un pré fleuri. Quand elle coupa le dernier bout du fil, Madame Lénier avait bien mal au dos, mais elle rayonnait de plaisir attendri. Il lui semblait avoir retrouvé fortune, amis et jeunesse. Le vendredi matin, dès l'aube, elle alla à la fontaine, mystérieuse, avec d'infinies précautions pour n'être point surprise, et elle battit ses draps neufs dans l'eau claire. N'osant point les étendre de peur que leur grand éclat blanc en attirât l'attention, elle les tordit de son mieux, avec grand effort et grande peine de ses petites mains de dame, puis elle les rapporta, tout humides, chez elle. Ce ne fut point petite affaire de les sécher en les repassant, mais sa persévérance en vint à bout avant le soir. Et alors, les préparatifs de la grande fête de migraine pouvaient commencer. Madame Lénier mit en ordre son petit salon, rafraîchit les bouquets du portrait et fit soigneusement disparaître tout ce qui avait servi à son travail de la journée. Ensuite, elle passa dans la chambre plus intime. Elle enleva du lit les deux pauvres nappes. Son cœur se serra d'humiliation, elle se laissa tomber à genoux et pleura sur elle-même pendant quelques minutes comme si elle eût été une autre personne. Il était 8 heures quand elle se réveilla le lendemain matin. Accablée de fatigue, elle avait dormi plus tard qu'à l'ordinaire. À peine rassemblait-elle ses idées qu'une douleur lancinante la cingla entre les deux yeux. Elle porta la main à son front et sourit. Oui, la migraine n'avait plus qu'à venir. Un quart d'heure plus tard, la laitière, Madame Bornet, montait du rez-de-chaussée à l'étage avec la hâte lourde de son gélatineuse embonpoint. « Avertissez votre maîtresse, dit-elle tout essoufflée à la bonne de Mademoiselle Alexandrine Jacquet, que la dame d'en bas a la migraine. Elle se sent très mal et demande qu'on ait la charité de venir la soigner. » La nouvelle de cette capitulation se répandit dans le village de dames avec la rapidité de l'éclair. On ne parla d'autre chose tout le jour. Mademoiselle Alexandrine avait aussitôt fait mander son amie qui accourut, bouleversée d'étonnement. Dans l'ombre paisible de sa petite chambre, Madame Lénier était étendue, toute blanche sur l'oreiller, et son lit n'avait pas un pli, et ses deux mains étaient jointes juste au-dessus du beau chiffre qu'elle avait brodé la veille. Pauvre amie, pauvre petite dame à revers, faisait affectueusement Mademoiselle Alise, tout en bassinant les tempes de la malade. Comme vous souffrez, quelle épreuve que ces migraines! Non, non, c'est tout plaisir à présent, soupira Madame Lénier avec béatitude. Les deux amies se regardèrent. Quelques instants plus tard, Mademoiselle Alexandrine fit un signe mystérieux à son amie, qui la suivit doucement dans la pièce voisine. Et toutes deux à la fois, elles secouèrent la tête d'un air de tendre commisération. « Les draps sont tout neufs !» chuchota mademoiselle Alexandrine. « Oui, la marque se voit encore sous la broderie. »« Que faut-il en conclure ?» fit mademoiselle Alexandrine, toujours plus dogmatique que son amie. « J'en conclus que nous n'en dirons rien à personne. »